Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Fonction, votre podcast dédié à l'éducation fonctionnelle qui vous est offert par Mayuro et MOS. Depuis plus de 10 ans, Mayuro et MOS collaborent dans l'objectif d'assurer aux praticiens et aux patients des outils et traitements adaptés aux thérapies myofonctionnelles. Leurs expériences respectives leur permettent de connaître précisément les problématiques que vous rencontrez lors de la mise en place de vos traitements. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de mettre à profit leurs liens solides pour vous offrir une série de podcasts dédiés à l'éducation fonctionnelle et visant à vous fournir un maximum d'informations complémentaires à votre travail. Place au premier épisode « Qu'est-ce que l'éducation fonctionnelle et quel est son intérêt ?» avec Laurence Denis, logopède et formatrice chez Mayuro, avec Sébastien Lisens, logopède et formateur chez Mayuro, et avec Jérémy Mailleux, représentant MOS. Bonne écoute.
Parlons fonction.
Laurence et Sébastien, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter Mayuro ?
Oui, voilà, donc moi c'est Laurence, je suis logopède depuis une vingtaine d'années. J'ai toujours travaillé dans le domaine romio-fonctionnel, mais également je suis spécialisée en voix et en bégaiement. Dès le départ, j'ai aussi travaillé dans un cabinet d'orthodontie en étroite collaboration, dans lequel je travaille toujours aujourd'hui en tant que collaboratrice clinique. C'est aussi un cabinet qui s'intéresse pas mal aux apnées du sommeil et donc qui fait beaucoup les liens avec la prévention, les troubles oromyofonctionnels et les futurs problèmes de sommeil chez l'adulte. Depuis 3 ans, j'ai rejoint l'équipe de Mayuro en tant que formatrice et voilà, on essaye de diffuser les informations à ce niveau-là au niveau des logopèdes en Belgique et des orthophonistes en France.
Oui, parce que Mayuro est un organisme de formation.
C'est ça. Voilà. Donc bonjour, moi c'est Sébastien, donc je suis logopède aussi depuis 20 ans. J'ai eu la chance de commencer à travailler dans un cabinet d'orthodontie, dans celui dans lequel travaille Laurence. Et c'est là que j'ai rencontré Jérémy, il y a déjà longtemps.
On est plutôt jeune.
Donc on se connaît depuis fort longtemps avec Jérémy, on a toujours été en contact. Et c'est vrai que dans ma pratique professionnelle, en me spécialisant en neuromyo, j'ai découvert tout ce monde des éducateurs fonctionnels dont on va parler beaucoup. Et on a décidé de proposer des formations depuis 6 ans maintenant. On a fondé Mayuro avec Brigitte Pirard, qui sera là dans un prochain podcast pour diffuser des formations Romio en Belgique et en France. Et actuellement, il y a deux formats. Un format pour vraiment les tout petits, entre 0 et 3 ans, qui est dispensé par Anne-Sophie Muller, qui est médecin, et Laura Dauer, qui est logopède, qui seront aussi dans un prochain podcast. Et le format des 3 ans et plus, comme on appelle ça, donc l'enfant plus grand, jusqu'à l'adolescence, avec Brigitte Pirard, Laurence et moi-même.
Et Jérémy, tu as rencontré Sébastien dans un cabinet d'orthodontie. Qu'est-ce que tu faisais là-bas?
En fait, j'étais à ma place, figure-toi, parce que je vends du matériel aux orthodontistes. Donc, c'est une société qui a déjà maintenant 40 ans, un peu plus, MOS, que je représente, que je gère. C'est une entreprise familiale. On n'est pas beaucoup, mais très motivés. Et en fait, on est dans le cadre de la vente de produits orthodontiques. On a été amené à voir, et avec les produits proposés par nos fournisseurs, ainsi que les orthodontistes avec lesquels on travaillait, on a été amené à rencontrer tous ces dispositifs. Et en fait, c'est plus que les dispositifs, c'est vraiment la philosophie derrière qui nous a convaincus. C'est ce qui nous a rapprochés, parce qu'en fait, on s'est rencontrés avec Seb, mais on aurait pu se quitter aussi sec. Et en fait, ce qui nous a rapprochés clairement, c'est la philosophie qu'il y avait derrière, c'est d'accompagner le patient et de lui proposer quelque chose à un moment où ce n'était pas forcément évident qu'on puisse déjà travailler. On commençait beaucoup plus tard et il y a peut-être, pas toujours, mais parfois quelque chose à faire plus tôt.
Donc quelque chose à faire plus tôt qu'un traitement orthodontique. Donc justement, l'éducation fonctionnelle, c'est de ça qu'on parle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les fondements de l'éducation fonctionnelle et aborder déjà son intérêt dans vos pratiques thérapeutiques et même dans le monde dentaire, en fait? Puisque donc, évidemment, vous êtes logopède, mais Jérémy parlait de l'orthodontie. Enfin, vous en parliez aussi. C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés. Donc, il y a certainement un intérêt de l'éducation fonctionnelle dans tout le monde dentaire.
Oui, donc en fait, l'éducation fonctionnelle, c'est vraiment éduquer les fonctions, c'est-à-dire qu'on va se servir de ces petits matériels, et les éducateurs fonctionnels, pour nous permettre de parvenir à automatiser une ventilation nasale, à guider la langue, et c'est vraiment un outil, un relais dans nos prises en soins oromio, qui nous aide beaucoup, notamment au niveau de la prise en charge nocturne, parce que là, l'enfant dort, et donc c'est sûr que ce n'est pas un moment où il peut s'autocontrôler. Et donc, c'est un relais nocturne idéal dans nos prises en charge oromio. C'est surtout la ventilation qui nous a, dans un premier temps, amené à rechercher une solution à cette ventilation nocturne. Et puis, alors, tous les compléments que ça peut aussi donner au niveau sensoriel, au niveau de la langue, une guidance de la langue au repos, en déglutition.
Beaucoup de liens aussi avec le monde dentaire, de l'orthodontie, parce qu'on le sait maintenant depuis longtemps, il y a beaucoup de récidives qui sont provoquées justement par des dysfonctions de ces fonctions de la sphère orofaciale. Et donc les orthodontistes se sont intéressés fortement à ces fonctions pour essayer de les maîtriser, pour maîtriser leur traitement, pour stabiliser leur traitement dans le temps. Et c'est pour ça que je pense que plusieurs prestataires de soins s'intéressent à cette éducation fonctionnelle, parce que ce sont les fonctions primaires de l'individu sur lesquelles on travaille. Donc c'est ce que fait l'enfant en permanence, c'est ventiler, c'est manger, c'est boire, c'est dormir, et toute la façon dont la langue va gérer ces différentes fonctions qui vont être vraiment impactantes pour le système dentaire si elles ne sont pas bien exécutées, ou au contraire, qui vont permettre chez le jeune enfant d'optimiser cette croissance. Et donc cette éducation fonctionnelle a cet avantage d'utiliser du matériel à mettre en relais la nuit, dans les moments calmes, qui prennent en charge, qui supplée un peu la prise en charge et qui font que les résultats sont plus pérennes et qu'on ait moins de récidives par après par rapport au traitement d'orthodontie.
Comment est-ce que vous êtes venu, vous, en tant que logopède, à l'éducation fonctionnelle? Comment vous en avez eu connaissance et comment vous vous êtes intéressé à cette philosophie, comme disait Jérémy?
C'est quelque chose qu'on a découvert en fait au sein de notre travail dans le cabinet d'orthodontie en tant que collaborateur clinique, où certaines fois l'orthodontiste, après une dépose d'un appareillage fixe par exemple, ou chez un tout petit, plaçait un éducateur fonctionnel. Sauf que la grosse différence avec notre façon de fonctionner et notre philosophie, c'est que chez l'orthodontiste, le patient n'est pas spécialement revu régulièrement. Et on a remarqué dans certains cas des échecs de port ou l'enfant qui se lassait, qui portait pas suffisamment le matériel. Et donc, ça s'accompagnait de résultats moins optimaux. Et on a voulu vraiment mettre en place un accompagnement, un suivi plus régulier autour de ces éducateurs fonctionnels pour justement qu'ils puissent être utilisés et potentialisés.
C'est en plein essor aussi parce que la thérapie oromio est vraiment au cœur du débat un peu partout. Actuellement, c'est reconnu dans la nomenclature logo depuis longtemps en Belgique. Ça l'est depuis un an et demi en France, un an et demi, deux ans. On a beaucoup d'articles scientifiques qui s'intéressent aux troubles oromio-fonctionnels et aux troubles du sommeil obstructif chez l'enfant. Nous sommes dans un trouble oromio-fonctionnel aussi. Et je pense que cet intérêt fait que c'est de plus en plus connu, cette approche d'éducation fonctionnelle. Nous, c'est vrai que ça fait 20 ans maintenant. C'est dans le cadre du cabinet d'orthodontie dans lequel on travaillait, qui proposait, qui était déjà dans cette démarche fonctionnelle, parce qu'on a cette chance à Liège d'avoir des orthodontistes qui sont vraiment éveillés à cette dynamique fonctionnelle et qui conçoivent beaucoup leur plan de traitement autour de cette éducation fonctionnelle, en tout cas de l'importance des fonctions sur le développement de la structure chez l'enfant. Donc on y est en fait depuis toujours, et ce qu'on a constaté, grâce à Jérémy entre autres, c'est toutes ces évolutions de gamme. Quand on a commencé, c'était quelques dispositifs, et des gammes ont considérablement évolué pour répondre de plus en plus aux attentes, aux demandes du tout petit, qui était un peu occulté avant, hein, comme tu l'as dit Jérémy. C'était beaucoup le plus grand, c'était souvent après des traitements d'orthodontie, et puis ça s'est vraiment focalisé sur le tout petit, et on comprendra pourquoi tout à l'heure.
Donc Laurence et Sébastien ont eu connaissance de l'éducation fonctionnelle par l'orthodontie. Jérémy, toi aussi, du coup, par les fabricants, j'imagine, qui t'ont proposé des nouveaux dispositifs à mettre en vente chez toi.
Alors c'est exactement ça, donc moi j'étais dans le milieu ortho, dentique, et c'est vraiment des praticiens qui ont développé des gammes avec des marques que je représentais, qui aussi ont été un peu des mentors pour moi. Je pense à Daniel René, qui est un orthodontiste en France, qui reprenait une phrase de Gugino, après je ne sais pas si je la retranscris parfaitement, mais qui disait que toute dysmorphose a une dysfonction associée. Et donc en fait, c'est cette prise de conscience-là. On a eu beaucoup de phases dans l'orthodontie, et on a eu des phases où on faisait rien avant 12 ans parce qu'on attendait que les choses se terminent, qu'on n'ait plus de croissance en fait, pour corriger par la suite. Et donc, on n'utilisait pas forcément toutes ces... Et maintenant, le discours, quand on va dans les cabinets, le discours a beaucoup changé. Encore une fois, on reste à notre place. Notre métier, c'est de proposer des dispositifs avec des caractéristiques techniques que les praticiens peuvent utiliser et faire matcher avec leurs objectifs thérapeutiques. Mais on s'aperçoit en effet qu'il y en a qui décident de ne pas bosser avant 12 ans et il y en a d'autres qui décident de rendre un terrain plus favorable à l'orthodontie après. Donc nous, c'était vraiment par l'orthodontie. Quand on voit encore dans certains endroits, c'est toujours comme ça que c'est mis en place, mais on arrive toujours un peu un frein, c'est le temps. Parce que c'est en fait ces appareils-là, c'est presque des symboles de toute une mise en place, de tout un process autour de l'enfant. Et donc il faut du temps parce que c'est amovible, donc c'est pas forcément la denrée la plus disponible pour un orthodontiste en Belgique. Et donc surtout aussi au départ dans votre région, ici à Liège, et avec beaucoup d'orthos qui ont dit, qui bossaient avec d'autres disciplines, avec des logos déjà, et qui ont dit écoute, voilà, moi je sais ce qui est disponible, je sais ce que je veux faire, ce que je veux atteindre, après il faut un suivi et en plus une maîtrise des fonctions pour me préparer ce terrain. Et donc en Belgique on est plutôt assez, je dirais, vous me dites si je me trompe, mais plutôt bien placé, on a bien évolué, et donc cette pluridisciplinarité, pardon, qui est au centre en fait, de la réussite de ces traitements-là, est déjà très, très bien installée ici.
On dit souvent qu'on est dans une région où on a beaucoup de chance, on est très bien entouré, effectivement, autant au niveau ORL qu'au niveau orthodontie, et cette pluridisciplinarité peut vraiment, vraiment s'appliquer ici de manière très confortable et facile, et on a de bons liens entre nous également. Oui.
Ben justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu mets en place cette pluridisciplinarité, pardon ?
Parce que on va tous écorcher le mot, je pense.
On a tous un peu dans l'idée, en tout cas les gens qui ne sont pas praticiens comme moi, on a toujours cette idée un petit peu que chacun est un peu dans son monde, chacun sa propre discipline, il y a parfois même un petit peu des guéguerres qui peuvent se passer, etc. Comment est-ce que vous faites, vous, pour justement pour pouvoir travailler avec d'autres disciplines médicales ?
Je pense qu'il y a vraiment une phrase qui va résumer pour moi le tout, c'est l'intérêt du patient. On est là pour l'intérêt du patient, donc il n'y a pas cette notion de guéguerre ou de qui prend le patient. C'est le patient qui va présenter des dysfonctions, des dysmorphoses, des pathologies récurrentes, et il faut qu'on trouve la porte d'entrée. On est plusieurs à se concerter, à collaborer dans l'intérêt du patient pour que sa qualité de vie soit meilleure, tout simplement. Et donc, c'est vrai qu'il y a des situations où on va recevoir un patient envoyé par un orthodontiste, complètement à juste titre, parce qu'il présente des dysfonctions, il y a des dysmorphoses associées. Et en faisant tout le bilan, on se rend compte que le souci, il est au niveau ORL. Il y a des amygdales qui sont hypertrophiques, il y a un contexte allergique qui n'a pas été dépisté, et on ne va pas pouvoir travailler et l'aider à ce moment-là, parce que les fonctions ne peuvent pas s'établir autrement avec l'hypertrophie, des amygdales, des végétations, le terrain allergique. Donc là, l'ORL va prendre le relais, va prendre en charge cet enfant, et une fois que ce sera normalisé au niveau de la situation ventilatoire, ORL, alors on pourra mettre en place ce schéma d'éducation fonctionnelle et prendre en charge ce patient. C'est vraiment cette collaboration au sens large du terme où il n'y a pas un parcours qui est prédéfini, c'est vraiment en fonction du patient qu'on a en face de soi, en fonction de par qui il nous a été référé et en fonction vraiment des besoins qui sont adaptés à l'enfant.
On a parfois tendance en tant que logopède, quand on nous réfère un patient, à se dire « voilà, on doit le prendre en soin ». Mais je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit avoir une réflexion et notre métier évolue aussi autour de tout ça. Parfois, ce n'est pas à nous de démarrer. Parfois, il a d'abord besoin de consulter quelqu'un d'autre ou d'être pris en soin par quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a toujours en tête quand on reçoit un patient pour la première fois. C'est de se dire, est-ce que c'est le moment pour moi de commencer avec lui ? Est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en place actuellement au niveau logopédique ? Mais pas toujours. Donc c'est vraiment aussi quelque chose qui doit nous faire réviser notre pratique par rapport à ça en logopédie.
Depuis l'éducation fonctionnelle, quels sont les gros avantages que vous avez trouvés ?
C'est ce relais nocturne. Il n'y a rien à faire.
D'accord.
Au début de la pratique, en logopédie au Romio, c'est fort axé sur des exercices répétitifs, sur des praxis, où on estime que si une langue ne se positionne pas correctement en déglutition, par exemple, ou au repos, qu'une langue reste basse chez un enfant, c'est qu'elle manque de tonus. Et donc, le fait de renforcer musculairement une langue pourrait la replacer et refaire dynamiser cette langue de manière correcte. Or, ce n'est pas comme ça que ça va marcher, parce que la langue n'est pas forcément hypotonique. L'enfant utilise quand même sa langue tous les jours pour parler, pour boire, pour manger, pour avaler. Donc, il a un tonus de base qui est là. C'est plus des positions de référence qui ne sont pas bien établies et qui ont vraiment été intégrées comme automatisme. Parfois pour raison, parce qu'il était en obstruction ORL, il ne savait pas ventiler, il a dû s'adapter. La plupart du temps, c'est ce qu'on retrouvera. C'est pour ça que nous, on fait un peu une différence entre des fonctions qui sont dysfonctionnelles ou des fonctions qui sont adaptatives. Nous, on parle plus de fonctions qui s'adaptent chez le jeune enfant parce qu'il n'a pas la possibilité de faire autrement. Et puis alors, quand le terrain est normalisé et qu'il continue à dysfonctionner, là, on est plus dans de la dysfonction. Mais ce sont des automatismes qui ont été mis en jeu, qui ont été mis en place. Et on s'est bien rendu compte, en étant vraiment honnête, qu'on avait très peu de résultats. Et je pense que c'est pour ça que la thérapie Romio à l'époque avait mauvaise presse, parce que les orthodontistes revoient leurs patients avec, après une prise en charge, logo, et il n'y avait pas de résultat. L'enfant ne ventilait pas mieux, la dysmorphose était là, voire plus importante, alors que les exercices étaient faits correctement, mais on s'est dit, c'est logique, parce que c'est trop bref dans le temps des petites praxis, il faut qu'on ait quelque chose qui nous aide à stabiliser dans le temps ces nouvelles positions, ces nouveaux repères. Et là, on va arriver plus sur ce qu'on appelle les fonctions qui sont permanentes, qu'on a beaucoup occultées au début en neuromio. On était sur le praxique, sur la déglutition, sur la position de la langue. Mais toutes les fonctions qui sont permanentes, la ventilation, c'est la plus importante. On ventile 24 heures sur 24. Ces fonctions sont bien plus déformantes et bien plus impactantes et sont plus difficiles à corriger. Et tant qu'on n'a pas cette correction de ces fonctions permanentes, les autres dysfonctions, à nos yeux, sont plus des symptômes. Et si on travaille sur le symptôme et pas sur ce qui crée le symptôme, on ne va pas pouvoir guérir le patient parce qu'on n'est pas sur la porte d'entrée. Et je pense que l'éducation fonctionnelle, l'utilisation de ces matériels fonctionnels, travaille véritablement sur la porte d'entrée. Et une fois que ces fonctions permanentes vont être remises en place grâce à ces matériels, ben, y a un peu une série d'adaptations qui vont se mettre en place de manière positive et sur un nombre d'heures conséquent, parce qu'un enfant jeune dort pendant 9, 10, 11 heures par nuit. Donc, c'est un atout qui est majeur.
Quelle chance!
Quelle chance! une énorme chance!
En fait, on a vraiment réalisé qu'à partir du moment où on a commencé à utiliser ces matériels d'éducation fonctionnelle, nos prises en charge ont été plus efficaces. Ouais. Donc en fait, c'est vrai que tu disais tout à l'heure, j'imagine que chacun n'a peut-être pas un dispositif. On se rend compte que 99% de nos patients en ont un. Ouais. Parce qu'on en a toujours bien besoin d'un pour l'une ou l'autre raison. La ventilation dysfonctionne, la langue. Et donc d'office, ça nous aide énormément, notamment au niveau de la nuit.
Et parce que maintenant, les gammes se sont vachement développées. Oui, et donc tu trouves un dispositif adapté à chacun. Justement, sur ces dispositifs, Jérémy, tu peux peut-être nous expliquer un petit peu ce que sont ces dispositifs, comment ils sont présentés, quelles sont les spécificités. Je sais qu'il y a des écrans, il y a des gouttières. Comment est-ce qu'on...
Je te trouve bien renseigné.
Je me renseigne un petit peu quand même.
Non, tout à fait. Alors, ça se divise. On a des petits dossiers techniques qu'on peut retrouver sur le site mos.be si pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de se renseigner un petit peu plus loin. C'est vraiment une première séparation entre soit ce sont des écrans, soit ce sont des gouttières. Les gouttières, c'est plutôt des appareils qui présentent des aspects orthodontiques. Donc, c'est clairement un rapport entre les deux arcades, puisqu'il y a un déverrouillage qui se fait avec l'épaisseur de gouttière. Donc l'arcade sup et l'arcade inférieure se désolidarisent et peuvent grandir un peu de manière indépendante. Et puis, il y a les écrans. Les écrans, ce sont donc, comme le nom l'indique, des appareils qui font écran et qui se mettent entre les dents et les lèvres, et qui sont, je dirais, plus fonctionnels, plus spécifiquement fonctionnels, c'est-à-dire que leur lien avec l'orthodontie, là, est un lien indirect, c'est-à-dire qu'on va préparer du terrain fonctionnel pour que l'orthodontie puisse se faire dans les meilleures conditions. Et sinon, on peut dire que, peu importe les deux rubriques, on a l'intérêt d'arrêter la succion du pouce, de la tétine. Les écrans ressemblent parfois, d'ailleurs, à des tétines pour faire...
Pour faire le lien.
Le lien est donc le
sevrage.
Le transfert.
Voilà, le transfert. Voilà. Je cherchais le mot, merci Lou. Et donc, tout peut servir à ça, mais pour ça, fermer la bouche, respirer par le nez. Et donc, on rentre dans tout le processus que les deux spécialistes en face de moi connaissent mieux. Mais donc, ce sont des dispositifs qui sont soit en silicone alimentaire, soit en PVC. Ce sont des dispositifs, on en parlera dans les prochains podcasts aussi, peut-être plus en détail, mais ce sont des dispositifs médicaux avec une traçabilité, avec toute une gestion de retour, si jamais il y a un petit, ça présente un défaut. Donc, tout ça est bien réglementé, bien encadré. C'est important pour moi ici déjà de le spécifier, mais c'est pas du tout ça fait pas le traitement. Ça a pu être présenté comme ça, mais c'est un outil dans la trousse d'un spécialiste. Donc nous, on présente les caractéristiques techniques de ces outils qui ne peuvent pas être utilisés dans tous les cas. Ça, c'est le spécialiste qui le dira, et qui peuvent par contre aider C'est du standard, mais ça peut être un petit peu travaillé, un petit peu meulé, un petit peu personnalisé. Mais sinon, voilà, dans l'écran, vous en parlerez un peu des effets thérapeutiques, mais ça se présente tout simplement comme un écran avec. Ça a été développé par Alain Piron, que je salue aussi ici parce que c'est aussi avec lui qu'on avait échangé au tout début de l'éducation fonctionnelle ici. Et alors, avec un petit contact bilabial aussi pour prendre conscience.
Donc ça, c'est les intercepteurs labiaux.
Voilà, donc ouais, ça, c'est plus c'est les ça. Écrans, pardon, ouais. Mais c'est dans la partie écran. Ouais. Et dans la partie gouttière, on a aussi, en plus des écrans et de la gouttière, on a une rampe à langue. Ça, c'est relativement important de le souligner, parce qu'avant, il y a des petites languettes sur certains appareils. Mmh. On a plusieurs gammes qu'on propose, et ça amenait parfois des problèmes, nous disaient les spécialistes, d'hypertonie du bout de la langue, alors que la rampe à langue, qui est un système plus passif, permet à la langue de se mettre dans la totalité de sa surface au palais.
De s'habituer à la position, comme tu disais, nocturne, Sébastien, ouais. Au lieu de travailler le tonus, on remémore à la langue de se positionner correctement, en fait.
C'est ouais. Ça, oui. Au niveau sensoriel, on va mm-hmm. amener des repères sensoriels pour que la langue ne puisse monter, changer de position. Mm-hmm. Oui.
Je me permets de rebondir sur ce que Jérémy a signalé tout à l'heure, l'importance d'avoir une collaboration avec le dentiste ou l'orthodontiste qui suit l'enfant. Pas dans le sens de systématiquement avoir un bilan complet d'orthodontie, parce que ce qui est très intéressant avec ces éducateurs fonctionnels, c'est que ce sont des dispositifs passifs. Daniel Rollet le précisait vraiment bien dans ses articles, c'est que ça ne va pas émettre de force directe sur les dents. Donc le but de cet appareil n'est pas de faire bouger les dents en première intention.
Pas comme des aligneurs, par exemple.
Exactement, voilà. Pas comme des aligneurs. Par contre, la magie de ces petits appareils, c'est qu'ils vont se servir de la fonction mm-hmm. au profit de la forme. D'accord. Et c'est pour ça, en fait, que plusieurs disciplines s'y intéressent, que ce soit les disciplines plus dans le monde dentaire, orthodontique, où eux, leur but, c'est d'avoir une harmonisation de la forme. Oui. Et vu qu'ils savent très bien, comme Jérémy l'a exposé au début du podcast, qu'il y a beaucoup de liens en dysfonction et dysmorphose.
Tout à fait.
Ils savent bien qu'en essayant de gérer un peu le fonctionnel, leur forme va mieux réagir. Et puis les autres prestataires de soins qui sont plus dans la fibre fonctionnelle et moins orthodontique des choses, mm-hmm. comme nous par exemple en tant que logopède, on va se servir vraiment de la fonction pour que l'enfant ventile mieux, fonctionne mieux, et on va se servir un petit peu de la réponse de la forme comme témoin. Oui. Est-ce que ma prise en charge, elle va dans le bon? Est-ce qu'elle évolue correctement? Parce qu'on peut avoir des évolutions qui sont positives, comme parfois des évolutions qui ne vont pas dans le bon sens. Or, le dispositif est porté, et la réponse de la forme n'est pas celle qu'on souhaiterait si la correction de la fonction était bien menée. Donc c'est ça qui rapproche beaucoup de prestataires de soins autour de cette éducation fonctionnelle. On entend de plus en plus de pédiatres, d'ORL, de mm-hmm. médecins généralistes qui s'intéressent à cette approche. Parce qu'il y a aussi, on en parlera tout à l'heure, le lien avec les troubles du sommeil, qui est de plus en plus concret avec ce que peut amener ces types d'éducateurs. Donc, quand on a des tout petits patients de 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, il y a toute une série de ces patients qui n'auront pas encore vu d'orthodontiste, qui n'en verraient peut-être pas avant 3, 4, 5 ans, ça dépend un petit peu des régions. Et donc, on est tout à fait légitime à proposer ces petits dispositifs d'éducation fonctionnelle avec un contact, une collaboration avec le dentiste généraliste qui suit l'enfant, parce que ce sont des matériels qui sont standardisés, comme tu l'as dit Jérémy, qui sont passifs, mais qui demandent une connaissance pour que ce soit placé correctement et suivi correctement.
Comment est-ce que vous avez passé le cap pour intégrer ces dispositifs?
En fait, on avait une sensation d'un manquement dans nos prises en charge. On se rendait compte que très souvent, les patients avaient difficile d'automatiser ce qu'on travaillait en séance au cours de la semaine, au cours de la nuit. Ce n'était pas évident pour eux de repenser à la langue, à la replacer correctement, à fermer la bouche. Tout simplement parce que ce n'est pas possible quand on est à l'école, qu'on a des activités, de penser en permanence uniquement à ça. Et donc, on avait quand même pas mal de cas où l'automatisation ne se faisait pas et on a vraiment cherché des solutions. Et c'est vraiment en cherchant, en se renseignant, qu'on a découvert, en fait, et au sein du cabinet d'orthodontie, on a remarqué qu'on en plaçait également, puis on a plus pris ça à notre charge, oui. Et on a pu finalement constater que nos prises en soins changeaient. On avait quand même toujours aussi en tête le fait que chez les tout-petits, donc avant 6 ans, on sait qu'il y a 60% de la croissance crânio-faciale qui s'effectue, et que laisser passer cette étape clé, nous, ça nous semblait pas possible de pouvoir continuer en laissant l'enfant dysfonctionner autant d'années, oui. En sachant que ça va avoir un impact impressionnant sur sa croissance crânio-faciale, sur son sommeil, sur sa qualité de vie. Donc on a vraiment recherché quelque chose pour pouvoir aider ces petits patients tout jeunes. Et plus les enfants sont jeunes, plus ils adhèrent à cette façon de fonctionner parce qu'ils ne se posent pas de questions. Et voilà, oui, quoi. C'est très ça. Naturel pour eux finalement.
Oui. D'accord. Jérémy, tu as senti, toi, une bascule dans ton métier de distributeur de matériel à partir du moment où tu as intégré les éducateurs fonctionnels dans la gamme de tes produits ?
J'ai senti une bascule au fur et à mesure des années. Ce n'était pas une bascule à un point très précis. Ça s'est fait petit à petit, avec beaucoup d'intérêt. En fait, il faut quand même le préciser, ce n'est pas évident de mettre en place tout ça dans un cabinet. Mm-hmm. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast. Ici, en face de moi, j'ai des artistes chevronnés, mais qui ont relevé les manches, retroussé les manches pour se lancer dedans, qui ont eu aussi la chance de rencontrer des bonnes personnes, d'avoir... Quand on parle de pluridisciplinarité au cœur du sujet, Seb le raconte bien, vous l'avez eu au tout début. Nous, on fait aussi ce podcast parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « j'ai pas le temps, c'est pas sûr ». Et oui, c'est pas sûr d'avoir le résultat. Donc, il faut y croire, il faut avoir envie de le mettre en place, il faut décider de contacter des gens. Nous, on a énormément de demandes de gens. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont quand même attirés par cette partie de la discipline qui en pose, avec qui je pourrais collaborer? C'est de nombreuses années de travail, en fait, pour en arriver là. Et donc, on s'adresse, là, ici, aux gens qui nous écoutent, on s'adresse à des gens qui bossent seuls, qui sont intéressés. Moi, j'ai encore fait une petite présentation dans un cabinet ortho avec... un ortho, une logo, adressé au logopède pour montrer, pour apprendre à parler un peu le même langage. Et ils sont ravis de le mettre en place, mais ils n'ont pas tous les outils. Et donc, c'est pour leur donner une expérience, mm-hmm. la nôtre, pour pouvoir dire que ça existe, qu'il y a des réseaux qui se créent aussi. Mais ce n'est pas facile. Donc, il faut y croire. Moi par exemple, je n'ai pas vu de bascule. J'ai vu un intérêt croissant. Mais par contre, le jour où j'ai décidé de moi... ne jamais le lâcher, c'est quand j'ai été invité par un praticien pour montrer les appareils qu'on avait d'autres. Et puis je suis revenu à la fin du traitement, c'était un petit patient. Il devait avoir 7 ou 8 ans et il n'avait pas de potes. Il ratait à l'école, il ne faisait pas de sport, il était classe 2, il avait grosse cerne, il respirait, respirateur buccal full, des gros problèmes, des disputes familiales et tout ça. La maman, à la fin du traitement, elle pleurait en disant merci à l'équipe. Il y avait le logo ortho et moi. Je me sentais un peu trop avec juste le matériel, mais toi, tu m'as dit que bah, voilà, je fais partie aussi de l'ensemble. Et il réussissait à l'école. Il avait plein de potes. Il faisait du sport. Il s'éclatait. Il avait repris du tonus de tout le faciès. Il était vers le haut, quoi, plutôt que tout déclinant. Et moi, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est vraiment notre métier, c'est le côté sourire, redonner. Et ça avait plein d'implications. Alors évidemment, ne jamais se tromper, il ne faut pas vendre du rêve en disant « votre enfant est triste, éducation fonctionnelle », tu vois, on ne va pas aller dire ça. Mais c'est là où moi, comme c'était mon métier, ça m'a beaucoup parlé. Oui, je me suis dit, on existe pour quelque chose et donc ça vaut la peine. Mais par contre, voilà, pas de bascule, mais des gens qui veulent bosser et mettre la main dans le cambouis et ne jamais lâcher, voilà, du lundi au dimanche, quoi, en gros.
Il y a beaucoup de retours comme ça, hein, de patients qu'on a, et c'est vraiment aussi ce qui nous passionne, c'est que les parents nous disent « notre enfant, il change ouais. ». C'est plus le même. Il se lève le matin, il est de bonne humeur, il dort mieux. À l'école, oui, ça se passe mieux, il est moins irritable. On rentre dans le monde du sommeil, et je pense que c'est ça aussi qui est excessivement riche dans cette approche, c'est qu'à la base, les personnes qui ont conçu ces premières gammes n'imaginaient pas en fait l'impact que ça pourrait avoir à différents niveaux. On était, comme tu dis, plus dans le monde de l'orthodontie un peu pur, et on est maintenant dans des enjeux de santé publique, des troubles du sommeil, des troubles ventilatoires, des troubles parfois alimentaires aussi, on peut avoir des résultats qui sont assez intéressants. On est dans des fonctions qui sont indispensables à la qualité de vie de l'individu. Mmh. Et donc ce que décrit Jérémy, c'est vraiment ça, c'est des qualités de vie qui s'améliorent. Et il n'y a rien de plus riche pour un praticien que de voir des résultats au niveau de la qualité de vie de l'individu. Et c'est ça qui me tenait à cœur de faire ces podcasts avec MOS, parce qu'on n'a pas du tout une relation de distributeur et moi, en tant qu'acheteur. C'est vraiment tout un lien qui s'est créé autour de cette approche, parce que MOS est une société hyper active dans l'accompagnement des prestataires de soins. Mmh. Ils conseillent, ils informent, ils diffusent les informations, ils ont un rôle bien plus important que simplement fournisseur de matériel. Et donc, on s'y retrouve aussi dans notre philosophie parce qu'on échange en permanence depuis toujours, en fait. Ouais. Et c'est ça qui fait évoluer les pratiques, qui fait évoluer peut-être les gammes de temps en temps en remontant des informations et qui fait que ça se diffuse de manière positive. C'est une collaboration qui est très riche.
Donc, il y a évidemment l'avantage du port nocturne, donc c'est capital, mais aussi on peut traiter plus tôt que ce qu'on faisait avant, et en plus avec des dispositifs qui sont amovibles, qui essayent d'être le moins invasif possible. Du coup, c'est, j'imagine, plus simple aussi à proposer ce genre de dispositif.
Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que c'est, on est toujours gagnant si on peut permettre aux patients de refonctionner correctement. On va, même si par la suite on aura peut-être besoin, bien sûr, d'un traitement orthodontique ou de, voilà, de passer le relais à l'orthodontiste, on aura de toute façon gagné et en temps de traitement ortho, certainement, mais également aussi dans le fait que le patient va mieux s'habituer ou à son appareil, déjà plus facilement avoir l'habitude d'avoir quelque chose en bouche, de devoir déglutir avec, de devoir parler avec, de devoir fonctionner avec. Donc le patient, je pense, est quand même toujours gagnant dans tous les cas. On a aussi une diminution du risque de récidive par la suite, étant donné qu'on a retravaillé le fonctionnement global du patient, donc c'est toujours du win-win.
Avec une précision peut-être à apporter, c'est que dans l'autre sens, alors déjà, premièrement, ça ne remplace pas du tout la partie orthodontie fixe, je veux dire, c'est une préparation de terrain pour cette partie-là, qui peut ne pas fonctionner, encore une fois, ça dépend de plein de paramètres, mais aussi, revers, comme chaque médaille a son revers, il y a le côté parcours du combattant, j'ai pendant toute mon enfance, j'ai un appareil en bouche, donc ça, il faut gérer aussi. Ça, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, parce qu'on n'a pas du tout le même patient en face du praticien, les mêmes parents. Donc, ce n'est pas forcément si génial que ça, de passer sa vie avec un appareil en bouche. C'est une très, très bonne question, parce qu'on peut le présenter de cette manière-là, mais aussi présenter les effets parasites pour le confort de vie, parce que on améliore le confort de vie, oui, mais sauf qu'on met quand même un appareil en bouche, c'est pas si confortable, c'est parfois mieux sans appareil en bouche. Donc tout ça, c'est une sensibilité, mais donc c'est pénible, hein. C'est pour ça que nous, tu disais accompagnement, bah oui, nous on accompagne les praticiens qui se lancent patient par patient, c'est au bout d'un moment, ils volent de leurs propres ailes, on connaît ça, je parle au niveau de la caractéristique des produits, hein. Ils les connaissent mieux et donc ils travaillent avec, ils connaissent, mais au début, c'est essai-erreur aussi. Je me suis rendu compte qu'ils ne l'ont pas bien porté et je n'ai peut-être pas donné les bons ressorts pour motiver. Et puis tout ça, ça s'apprend et puis on reconnaît dans l'œil d'un parent que ça ne va pas être facile à mettre en place toujours. Donc tout ça, il faut se rendre compte que c'est, quand on n'a pas l'éducation fonctionnelle au cabinet, que ce soit logo, dentiste, ortho, et qu'on parle de tout ça, et qu'il faut être psychologue, il faut être, alors déjà qu'ils le sont dans leur métier en temps normal, psychologue pour un autre aspect, enfin, voilà, il y a toujours une relation coût-bénéfice hein, à prendre en compte. C'est un appareil chouette, oui, mais c'est toujours mieux pas d'appareil.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais justement, j'aimerais bien qu'on rebondisse sur ce que Jérémy disait, parce qu'il présentait déjà un petit peu les enjeux et les embûches. Et je pense que nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent aimeraient bien comprendre, pour se préparer à intégrer l'éducation fonctionnelle dans leur pratique, qu'est-ce que c'est les grands enjeux de l'éducation fonctionnelle ?
Alors, bah, vraiment, l'enjeu qui nous semblait essentiel, c'est vraiment de faire comprendre qu'à l'heure actuelle, on ne peut plus laisser un enfant ventiler par la bouche, surtout la nuit, parce que ça impacte son sommeil. On sait que durant le sommeil, il va développer tout son potentiel de croissance et que ça ne va donc pas être optimal s'il ventile par la bouche. Il va avoir un sommeil beaucoup moins réparateur. Donc, ça va impacter également ses apprentissages, sa qualité de vie, ses contacts sociaux. Donc, nous, ça nous semble à l'heure actuelle plus possible de pouvoir imaginer qu'un enfant ne puisse pas être aidé à ventiler par le nez la nuit. Et à restaurer vraiment une qualité de sommeil, c'est essentiel chez les enfants et chez les adultes aussi, mais principalement. Donc voilà, on parle vraiment de prévention, on va vraiment préparer le terrain grâce à cette éducation fonctionnelle. Et l'idée chez nous, c'est toujours de pouvoir commencer le plus tôt possible pour éviter évidemment que les choses ne s'ancrent dans la dysfonction, car plus elles sont longues, un patient qui dysfonctionne longuement va avoir plus de difficultés aussi à refonctionner dans le bon sens. Donc on essaie d'intervenir de manière précoce avec tous ces objectifs.
Quand tu dis précoce, tu parles de quel âge à peu près ?
On peut commencer déjà de la guidance très très jeune. Bah, nos collègues vous en parleront dans un prochain podcast aussi, mais maintenant on prend en charge dès la naissance parfois et c'est de la guidance parentale bien sûr dont on parle à ce moment-là. Après, au niveau vraiment éducation fonctionnelle, on va déjà pouvoir placer un petit intercepteur labial chez un enfant qui est prêt à arrêter la succion. Parfois à 2 ans, 2 ans et demi, les premiers cas, de temps en temps, ça peut déjà être à cet âge-là.
D'accord.
Sinon, d'office, à partir de 3 ans, 3 ans et demi, sans problème.
D'accord. Ouais.
En fait, j'ai envie de dire que la ventilation est un peu banalisée avant. Elle revient enfin au devant de la scène.
D'accord.
C'était pas considéré comme grave si l'enfant ronflait un peu. On dit souvent, c'est comme son père, il ronfle la nuit. On banalisait fortement. Et en fait, la ventilation buccale rentre dans une pathologie. C'est pathologique de ventiler par la bouche, simplement parce que l'être humain est conçu pour ventiler par le nez. Et quand il arrive au monde, il ne peut ventiler que par le nez. Il ne peut pas ventiler par la bouche, il n'y a pas encore d'oropharynx, il n'y a pas de possibilité mécanique de respirer par la bouche. Et donc, c'est par après que ça va vraiment se modifier avec des affections ORL, des rhumes à répétition, des amygdales hypertrophiques, des succions persistantes qui vont modifier ce schéma. Et c'est ce que disait Laurence, c'est qu'il faut prendre ça le plus tôt possible pour essayer de reguider correctement cette croissance avec ce facteur ventilatoire qui est permanent, qui est prédominant et qui impacte la qualité de sommeil. Et c'est pour ça qu'il y a ce lien qui est vraiment important pour le moment, qui se développe, en tout cas de plus en plus, on entend beaucoup parler de troubles du sommeil, c'est que la ventilation buccale va un peu déstructurer le sommeil. L'enfant va dormir moins profondément, et alors on sait que ce sont dans des stades de sommeil profond que l'hormone de croissance est vraiment sécrétée, en grosse majorité, et ces enfants qui dorment avec une bouche fort ouverte, qui ont un peu des ronflements, qui ont parfois des troubles obstructifs ventilatoires du sommeil, ne vont pas passer par ces phases de sommeil profond, ils vont sécréter beaucoup moins d'hormones de croissance. Et donc, plus l'éducateur fonctionnel va être maintenu en nuit, plus l'enfant va respirer par le nez, plus il va rentrer dans ces stades de sommeil profond, plus les hormones de croissance vont être sécrétées. Et donc, il y a un peu tout qui se remet en place. Et c'est ce qu'on occultait trop en logo avant, c'est ce côté nocturne, en fait. Et c'est ce qu'on a vraiment mis en place en pratique. C'est là que je pense que c'est intéressant de voir le patient régulièrement et d'accompagner la prise en charge. Parce qu'on va utiliser les éducateurs fonctionnels, les intercepteurs, les écrans, dans des positions qui sont celles dans lesquelles elles doivent être utilisées beaucoup. C'est-à-dire qu'on va travailler couché. L'enfant va être couché au cabinet, on va être en respiration calme, comme en nuit, parce que c'est là qu'il va être porté et c'est là qu'il y a des difficultés qui peuvent être mises en place. Un enfant peut parfaitement ventiler par le nez en journée et puis il va complètement décompenser en nuit parce que les amygdales vont prendre plus de volume en nuit qu'elles le sont en journée et vont parfois empêcher le maintien d'un éducateur. Et c'est ce que je pense, rencontre Jérémy en tant que distributeur, c'est des prestataires de soins qui sont découragés, parce qu'il y a beaucoup d'échecs. Et c'est ça, ce côté important de la collaboration, d'être sûr qu'au niveau ventilatoire, ce soit OK, et que l'enfant puisse maintenir son dispositif. Et à ce moment-là, on a quelque chose qui va se mettre en place et des progrès qui vont vraiment arriver. Donc c'est vraiment, Laurence, l'enjeu pour nous, capital, c'est la ventilation, la qualité de vie. Ouais.
Tu veux rajouter quelque chose, Jérémy ?
Oui, et donc comme on parle de prise en charge précoce, 3 ans, voilà, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour parler d'une collaboration entre disciplines. Qui voit le patient en premier ? Si au moins toutes les disciplines ont un peu cet accès à ces problèmes, que l'approche est un peu plus holistique, et on a des schémas qui existe pour référer, ça veut dire qu'on peut le prendre plus tôt. Et donc, après, chacun met en place la façon, la manière de travailler qu'il trouve la plus adaptée. Mais en tout cas, la détection. Et donc, avant, on avait beaucoup de finalement, les enfants de 3 ans avaient déjà fréquenté beaucoup de cabinets sans qu'on s'occupe de cette ventilation, tout simplement. Et donc, maintenant, ça permet ne fût-ce que de... Si déjà, ça peut servir à alerter un petit peu sur cet aspect-là, même ceux qui ne connaissent pas très bien. Mais donc, ventilation, c'est vrai que j'entends à gauche, à droite. Je vais envoyer chez quelqu'un que je connais pour cette partie ventilatoire. C'est déjà très bien, ça permet de cette prise en charge.
Et à votre avis, quelles seraient les grandes embûches à éviter ?
Forcément, ça va de pair avec les enjeux. C'est-à-dire qu'on vous parlait de ventilation tout à l'heure, il faut absolument qu'au niveau ORL, le patient soit dans un contexte ORL sain, une sphère ORL qui soit libre, dégagée. Donc nos plus grands collaborateurs à ce niveau-là, c'est bien sûr les ORL qui doivent vérifier que ce soit autant le facteur allergique que le facteur obstructif au niveau des amygdales, des végétations. On a vraiment besoin de travailler en étroite collaboration avec eux. Sinon, on a aussi bien sûr le fait que le patient doit porter son éducateur fonctionnel pendant un certain temps. Donc, c'est vrai que ça, on rencontre parfois en fonction du caractère du patient, un petit peu parfois de lassitude. Et là, on a un rôle de coach vraiment à dire, on a mis quelque chose en place, on avait déterminé pour quelles raisons on a décidé d'utiliser ce type de dispositif. On reprend vraiment le patient en charge pour que lui puisse observer le traitement correctement et persister et adhérer au traitement au maximum. Ça peut être aussi une embûche.
Il y a une autre embûche à laquelle je pense, parce qu'on l'entend souvent dans notre métier en tant que logopède, c'est une embûche administrative. Simplement à savoir que si on est vraiment dans la guidance du tout petit, en Belgique, en neuromyofonctionnel, la mutuelle n'octroie qu'un seul remboursement sur la vie de l'enfant. C'est 20 séances qui doivent être exécutées sur un an. Et c'est une seule fois dans la vie de l'enfant. Ça ne peut pas être antidaté ni postposé. Ça veut dire que quand on entame cette rééducation myofonctionnelle, si l'enfant en a besoin ultérieurement, c'est plus possible. En tout cas, plus possible au niveau du remboursement. Donc, c'est vrai que souvent, avec les tout-petits, nos collègues nous disent « Oui, mais on ne va pas rentrer une démarche à la mutuelle si c'est pour le voir 3-4 fois sur l'année en guidance. » Et parfois, ça peut un peu freiner en disant « Les patients ne vont pas retoucher, il n'y a pas d'attention à la mutuelle. » Et l'éducation fonctionnelle en elle-même avec le matériel, c'est toujours une question. Mais alors, combien est-ce que ça coûte? Est-ce que c'est remboursé? C'est demander des frais aux patients. Et ça peut être une embûche pour certains de se dire « Voilà, je vais proposer quelque chose qui, au niveau administratif, ne correspond pas trop à ce que les gens ont en tête. La gratuité des soins, ici, on est dans une situation où ça ne va pas être possible chez le tout petit. Et pour le remboursement des matériels, ce n'est pas possible. Donc, c'est une embûche qui est réelle et je pense qu'il faut rassurer parce que quand on voit tous les bienfaits que ça peut amener, encore comme tu disais tout à l'heure, le coût bénéfice-risque, il est vite calculé, je trouve.
Oui, à ton niveau. Maintenant, il faut le tester pour le voir. Il y a je pensais aussi tout de suite à cette collaboration que j'évoquais juste avant. On avait rigolé avec une image du joueur de football américain où en fait c'est des schémas qui sont aussi déjà définis avec le quarterback qui lance et le receveur qui sait où la balle va tomber. Parce que le nombre de fois où moi on me dit, peu importe dans quel sens, un ortho, un logo, un dentiste, on me dit je l'ai envoyé là-bas et en fait soit je ne l'ai plus retrouvé. Donc disparu dans la nature, j'ai plus le suivi derrière, ou alors il a dit l'inverse, et donc c'est pas tellement grave, en fait c'est comme dans le sport, il y a plein de façons de gagner un match, mais il faut juste que les joueurs ils jouent la même partition, et donc cette collaboration c'est aussi dire, accepter, avoir une philosophie commune, dire si on a ça comme écueil au long du traitement, on va pas en faire une histoire, on va essayer d'obtenir il faut un objectif final qui chapeaute l'ensemble et puis des petits objectifs sous-jacents et déjà parce que en plus ça va être plus facile de le transmettre aux patients, on a réussi ça, tandis que si on a mis un objectif trop lointain avec des gens qui vont peut-être dire l'inverse, il faut vraiment s'imaginer se mettre à la place du patient qui est ballotté de gauche à droite parfois pour entendre l'inverse. Et il ne sait plus où retourner. Donc cette collaboration qui va permettre de parler le même langage et qu'il a l'impression de faire partie d'une équipe dont il est le meilleur joueur, quelque part, c'est pour moi, c'est l'enjeu le plus important. Une fois qu'on a parlé des aspects cliniques, mais de la mise en place. La mise en place, c'est vraiment cette collaboration, je pense.
Nous, on milite pour que les prestataires de soins se connaissent mieux, aillent se rencontrer, discutent ensemble pour parler le même langage. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir les autres travailler, s'observer les uns les autres de manière à mieux se connaître, mieux connaître nos façons de fonctionner et pouvoir du coup collaborer dans le bien, dans l'intérêt du patient.
C'est vrai que souvent, l'inconnu fait peur. Je rejoins Jérémy. Quand on ne connaît pas, on appréhende. Et donc, on n'ose pas passer le pas. Et c'est vrai que quand on est un peu esselé, il y en a qui travaillent un peu seuls, ils ont l'impression que c'est une montagne et que c'est pas faisable à mettre en place. Je pense encore une fois que cette collaboration n'a rien à faire, que ce soit autant avec les prestataires de soins qu'avec des équipes comme MOS, c'est ce qui permet de déverrouiller et de mettre en place cette éducation fonctionnelle au fur et à mesure.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Parlons Fonction, votre podcast dédié à l'éducation fonctionnelle qui vous est offert par Mayoro et MOS. Afin de continuer à vous proposer les meilleurs thèmes possibles, nous vous invitons à nous envoyer vos questions et sujets que vous souhaiteriez entendre sur les adresses mail que vous trouverez en description. Cela nous permettra de coller au mieux à vos besoins. À bientôt pour un nouvel épisode.
Parlons fonction.